L'HBET sur RCN.
Bonjour, on est dans l'HBET sur RCN, il est 14h. Nous enregistrons depuis le lycée Marquette. Salut tout le monde.
Salut.
Vous allez bien, ça va?
Très bien, et toi?
Il fait chaud un peu?
Oui, très chaud.
Ouais, grosse chaleur.
Donc tout de suite, on écoutera Axel sur les mechas.
Ouais, bah, la dernière fois, du coup, j'ai parlé un peu des kaijus, donc cette fois, bah, je vais parler des mechas.
Dans la continuité, du coup. Ensuite, on aura Axel avec les RPIMA.
Le premier RPIMA, oui.
Voilà. Ensuite, un petit quiz,
encore une fois.
Et enfin, on aura Radou.
Voilà, je vous présenterai en fait un peu l'illusion qu'on a de pourquoi Internet est gratuit et qu'est-ce qui fait qu'en fait, bah, c'est peut-être pas si gratuit que ça.
Eh bien, j'ai hâte d'écouter tout ça. On est ensemble jusqu'à 14h30. C'est parti.
RCN. L'HBET.
Et donc, tout de suite, Axel sur les mechas.
Alors déjà, on va un peu expliquer qu'est-ce que c'est un mecha et d'où ils ont pris le mot. Donc déjà, c'est japonais, parce que ça a commencé vers les 1960 avec des animés donc, ou des mangas comme Goldorak, Gundam, Evangelion ou Code Geass.
Oui, c'est connu en vrai.
Donc les mechas, bah, ça s'entend un peu, mais ça a été repris de l'anglais avec bah, Mechanical, Mechanics, les choses comme ça. Et donc ça désigne... bah, soit les robots, soit directement le thème, parce que donc, c'est devenu une sous-partie un peu des mangas et animés, les mechas.
Tout ce qui est robotique
Bah, c'est tout ce qui est, oui, quand il y a les gros robots, souvent, qui se battent contre des monstres.
Ok.
Et donc, par la suite, donc, ça a créé beaucoup de dérivés, comme bah, les figurines avec Gundam, où c'est assez connu, les jeux vidéo. Alors, j'ai pas d'exemple comme ça de jeux vidéo où il y en a. Mais
il a dû y avoir des jeux vidéo Goldorak, je pense.
Ouais, oui,
je
c'est pense. Possible.
Tellement c'est connu.
Et donc, bah, comme on peut le voir, ça a été créé vers les années 1960, mais c'est toujours d'actualité, avec par exemple des moins connus, mais par exemple Darling in the Franxx ou la série Green Man Universe, qui a été directement inspirée d'une autre série d'animation qui s'appelait Green Man the Hyper Agent, qui a été créé en 1993. Donc ils l'ont repris et adapté en animé.
Eh ben, je reconnais aucune de toutes celles-là, mais je veux dire, c'est pas grave.
Green Man, je crois que c'est assez connu quand même. De nom,
bah, je connais
bien
pas.
Un truc.
Non, parce qu'il y a eu beaucoup de dérivés, je crois. Niveau figurine, tout ça.
Exactement, ouais. Et sinon, est-ce qu'il n'y aurait pas eu des films... je sais pas, un mecha contre je ne sais pas quoi. En fait, j'ai quand même cette image de, bah, de films grand public, etc., où ils font des... bon, pas des collaborations, mais où ils font des confrontations entre différents types d'univers. Bah,
déjà, par exemple, donc, comme la dernière fois, on avait parlé un peu de Godzilla avec les kaiju. Mmh. Ils avaient fait Mecha Godzilla. Donc, il me semble qu'il y a eu un film où il y avait Godzilla contre Mecha Godzilla.
Ah oui.
Déjà. Et après, bah, les seules choses où je connais où c'est vraiment des mechas contre des monstres, c'est surtout bah, Gridman, où c'est un peu le but de base de...
D'accord. De ça,
donc, okay.
En vrai, en termes de film, je connais un peu Pacific Rim. Alors, c'est pas explicitement dit que c'est des mechas, mais en gros, c'est des robots géants humains, globalement.
Ouais, c'est ça, globalement.
Bah, c'est globalement ça. Bon, c'est un peu plus militarisé, plus américain, mais c'est à peu près la même chose.
Bah, un peu comme les Power Rangers, où c'est, bah, c'est vraiment ça pour
ouais,
le coup.
Et ça se bat contre des kaijus, justement.
Ouais, voilà, c'est exactement ça, donc voilà.
Enfin, il y a beaucoup de dérivés, du coup, de ça.
Ouais, il y en a plein.
Donc, voilà. Et donc, bah, tout de suite, Axel, sur les RPIMA.
Quand on parle des forces spéciales, on pense souvent à des soldats invisibles. Vous en connaissez déjà, des forces spéciales, avant de commencer?
Dans le monde,
ouais, dans le monde.
MI6,
ouais, ça c'est les
bah,
ça,
britanniques,
c'est plutôt service secret
ouais, plutôt pour service
anglais.
Ouais.
Le GIGN, c'est des forces spéciales ou
ouais,
pas
c'est des forces spéciales.
RAID en Amérique.
Il ouais. Ouais, y a le RAID en France aussi. Il y a le SWAT par exemple aux États-Unis, les
ouais,
forces police, et il y a la Navy SEAL, des trucs comme ça aussi aux États-Unis. Mm-hmm. Et bah là, aujourd'hui, on va s'intéresser au premier RPIMA. Donc, bah, déjà, est-ce que vous savez c'est quoi l'acronyme de RPIMA?
Pas du tout.
Non.
Là, c'est le premier régiment de parachutistes d'infanterie de marine. Et d'ailleurs, bah, on va s'intéresser à leur histoire. Bah, y en a beaucoup qui pensent que ça commence dans les années 2000 et pendant la guerre froide, mais c'est faux. Hein, elle date de la Seconde Guerre mondiale lors des opérations importantes, surtout au débarquement en Normandie. Bah, pour comprendre le premier RPIMA, il faut revenir en arrière, en pleine Seconde Guerre mondiale. À cette époque, des unités françaises libres combattent aux côtés des alliés. Parmi elles, on retrouve les SAS français, les Special Air Service, donc qui est une unité d'élite anglaise qui existe toujours.
Ok.
Ces soldats sont entraînés par les Britanniques pour des missions très particulières, infiltrer les lignes ennemies, saboter des infrastructures et perturber les communications allemandes, et surtout préparer le terrain avant le débarquement. Leur rôle est discret, mais crucial. Ils ne sont pas au centre de la bataille, mais ils influencent directement son déroulement. Et cette logique va devenir l'ADN d'une future unité française. Après, on remarque qu'après la guerre, les unités de SAS françaises ne disparaissent pas. Vraiment, elles évoluent et se transforment, mais gardent cette philosophie, agir vite, discrètement, loin des grandes armées visibles. C'est de cette continuité, que naît des années plus tard le premier RPIMA. On peut le voir comme un héritier direct des commandos de la France libre. Son nom peut sembler compliqué, mais il raconte déjà quelque chose. Parachutiste, intervention rapide par les airs, infanterie de marine, tradition militaire liée aux opérations extérieures, régiment, structure permanente et professionnelle. Mais derrière ce nom administratif se cache une réalité bien plus simple. Ce sont des soldats spécialisés dans les missions les plus sensibles. Le premier RPIMA fait partie des forces spéciales françaises aujourd'hui. Concrètement, cela signifie que ces missions sont rarement détaillées publiquement. Et quand elles le sont, c'est souvent avec beaucoup de retard. Ce que l'on sait en revanche, c'est leur domaine d'action. Reconnaissance en territoire hostile, libération d'otages, opérations de renseignement, neutralisation de cibles stratégiques, soutien à d'autres forces armées. Ils ne sont pas là pour occuper un territoire ou tenir une ligne de front, ils sont là pour intervenir là où c'est trop dangereux, trop sensible ou trop discret pour les unités classiques.
Et donc par exemple, est-ce qu'ils interviennent beaucoup en ce moment par exemple ?
Bah, en ce moment, on n'en entend pas parler, mais ils peuvent intervenir sur tout type de mission. Mais... Alors, j'ai plus d'exemples, mais il y en a pas longtemps, ils s'étaient réentraînés à la libération d'otages, je crois. Et ils avaient dû libérer des otages il y a quelques années, je crois.
D'accord.
Même si le premier RPIMA n'a pas fait le débarquement en tant que tel, il porte indiscrètement l'héritage. Le SAS de la Seconde Guerre mondiale avait une idée simple mais révolutionnaire pour l'époque. Une petite unité bien entraînée peut avoir un impact énorme sur une opération militaire. C'est exactement cette logique qui continue aujourd'hui. L'idée de la guerre moderne ne se joue pas seulement avec des armées massives, mais aussi avec des groupes très réduits, très spécialisés, capables d'agir dans l'ombre. Le premier RPIMA appartient aussi à un univers qui fascine beaucoup, celui des forces spéciales. Films, jeux vidéo, documentaires. L'image du soldat d'élite est partout, mais il faut faire attention. La réalité est très différente de la fiction. Dans la vraie vie, il n'y a pas de scène spectaculaire toutes les 5 minutes. Il y a surtout de la préparation, de la discrétion, de l'attente et une précision extrême. La force principale de ces soldats, ce n'est pas l'action spectaculaire, c'est leur capacité à rester invisible.
Oui, donc c'est pas eux qui vont s'attendre à recevoir des médailles, etc.
Oui,
et devenir
voilà,
très populaires. Quoi.
Eux, ils sont dans l'ombre. Ils agissent, ils sont là, mais on les voit pas.
C'est un peu triste.
Donc, oui, c'est un peu triste, mais c'est grâce à eux que généralement les opérations militaires se passent très bien.
Ça, c'est pas parce qu'ils reçoivent rien qu'en fait ils font rien, c'est eux qui...
Voilà, c'est eux, grâce à eux, entre guillemets, qu'une opération peut marcher ou comme ne peut pas marcher.
Ils assurent un peu les arrières, entre guillemets.
Mais voilà, c'est exactement le rôle principal qu'ils ont, juste protéger les infos qu'ils reçoivent, être sûr, entre guillemets soutenir en sabotant ou en faisant une mission commando pour éliminer par exemple certains lieux stratégiques. Et sinon, on les verra jamais en première ligne. On les verra généralement en fin de mission sur le tarmac en mode on était là en fait, et on le saura que très longtemps après. Sinon, on pourrait se demander pourquoi garder ce type d'unité aujourd'hui. La réponse est simple: le monde moderne a changé la manière de faire la guerre. Les conflits ne sont plus seulement des affrontements directs entre armées massives. Ils sont plus complexes, plus diffus, parfois invisibles. Dans ce contexte, des unités comme le premier RPIMA sont essentielles. Elles permettent d'agir vite, discrètement et parfois d'éviter des escalades plus importantes. Le premier RPIMA, ce n'est pas seulement une unité militaire, c'est une continuité historique, un lien direct entre les commandos de la Seconde Guerre mondiale et les forces spéciales modernes. C'est aussi une idée simple mais puissante. Certaines guerres ne se gagnent pas seulement sur le champ de bataille visible, mais dans l'ombre, par des équipes réduites, ultra entraînées et souvent inconnues du grand public. Et finalement, peut-être que leur vraie force, c'est justement ça, exister sans être vu.
Eh bien, ça nous en apprend encore, parce que c'est vrai qu'on n'en entend pas parler du coup, étant donné qu'ils agissent dans l'ombre. Donc je trouve que c'est bien d'en parler aussi, de savoir qu'ils sont là, qu'ils existent et qu'ils aident. Donc, je sais pas ce que vous en pensez.
C'est vrai, ouais, je partage ton avis, Lucie. Moi, je pense que c'est très intéressant de parler de, bah, de ce dont on parle pas.
Ou très peu.
Souvent, quoi. Oui, très peu, oui.
Ça nous explique bah, qu'il n'y a pas que ce qu'on connaît. Voilà. Et donc, tout de suite, on écoute Muséum de Owis. Sur l'âge bête, et tout de suite on a le quiz.
Effectivement, on a le quiz, donc de retour, voilà. Alors aujourd'hui on est quand même pas mal beaucoup, hein. on est 5, et encore il y a 2-3 gens facultatifs qui n'ont pas de micro, mais ils sont quand même là. Donc là j'attends de vous d'être extrêmement performants sur les petites questions, voilà, qui sont bon, d'une difficulté toujours aussi atteignable. Alors commençons. Question 1, qui est l'inventeur de la pile électrique? Et là, beaucoup de confusions peuvent être faites.
C'est Watson? Non, c'est pas Watson?
Ce n'est pas Watson. Non.
C'est Duracell, je crois.
Voilà. Ça fait Edison. Partie de proposition, mais ce n'est pas ça. Ce n'est pas non plus Edison. Ça, c'est l'électricité, il me semble. Ouais. Je vais donner des petites réponses, si vous voulez, voilà. Un, il y a Alessandro Volta. Deux, Peter Duracell. Mais j'ai dit déjà à Axel que ce n'était pas ça. Trois, Regina Varta. 4, Michael Energizer.
Oui, c'est le premier.
Volta.
C'est Volta.
C'est Volta.
C'est Volta. Et bien, c'est effectivement Volta. Parce que, alors je
le
sais
Volta.
Pas s'il y a un lien,
le
mais
Volta,
c'est ça, il y a un Volta.
C'est exactement ça.
Exactement. Même si on pouvait ouais, se faire avoir par Energizer, exactement.
C'est une marque.
On dirait un prénom de Pokémon ou je sais pas quoi. Energizer. Enfin bref. Question 2. En combien d'arrondissements municipaux la ville de Paris est-elle divisée?
23.
Si vous savez. 23, eh bien, ce n'est pas loin, mais ce n'est pas 23.
C'est pas 10,
25.
9.
21 alors.
26.
Toujours pas. Est-ce que des gens dans le public le savent?
20.
Non.
16.
Et à 20, c'est exactement ça, Axel. Tu as raison, 20 arrondissements municipaux dans Paris. En fait, c'est vrai que souvent on dit... En fait, je sais pas, moi je me serais arrêté au 16e, tu vois.
Non, il y en a... moi souvent. Je me serais arrêté au 19e.
Ah, 19e. Ok, mais ouais, en fait, on n'en parle pas si souvent. Enfin, je sais pas, ouais, je pense qu'il suffit d'allumer sa radio, mais je vois que ce n'est pas dans nos habitudes. Question 3. Quel animal est l'emblème du Royaume-Uni?
Du Royaume-Uni?
Non, mais j'avoue que moi non plus, je savais pas.
Hein.
Du Royaume-Uni.
Le lion?
Non.
Le lion, bonne réponse.
Ah bon?
Eh oui, oui, lion.
Okay. Ah bah d'accord.
Pourquoi le lion? Je ne sais pas du tout.
C'est historique en fait.
Ouais, je crois que c'est par rapport à ça. Si t'as plus de précision, en vrai, on prend.
C'est par rapport aux colonies en Afrique, tout ça. Non, certainement pas.
Le lion, bon bah voilà.
Le lion, ouais. Oui, parce qu'en fait, on le voit pas beaucoup représenté.
Mais
peut-être sur des maillots.
Vous.
Non, peut-être pas.
Bah surtout, t'as pas l'habitude d'y penser vu que c'est... Angleterre, Lyon, ça va pas trop ensemble.
C'est pas tout à fait au même endroit.
Et puis il y a beaucoup de villes, de pays qui prennent le lion comme emblème. Parce que symbole de puissance, de royauté, etc.
Ouais, peut-être.
Blablabla.
Bah après, c'est moins bizarre qu'en Écosse où c'est une licorne quand même.
Une licorne.
C'est incroyable.
En vrai, c'est stylé quand même.
C'est original.
C'est original, bah oui.
C'est vrai. Non, j'aimerais bien voir la licorne. C'est la France avec la licorne. C'est...
Non.
Non, nous on a un coq.
Non, nous on a un coq. C'est le truc qui te bouffe les doigts là dès que tu lui donnes à manger. Enfin bref.
Non, non, c'est mignon les coqs.
Oui, en vrai, non. Je me plains pas, c'est beau et c'est bien un coq. Question 4. Dans Chipolata, oui, le mot Chipolata, vous savez,
la
merguez Chipolata. Quelle. Tu te calmes. Quelle lettre est doublée dans ce mot?
Le T.
Le T. Je vais donner des réponses parce que ce n'est pas le T.
Je pense que c'est le A.
Le L, ce n'est pas le L. Il n'y a pas de A.
Si, dans Chipolata, il y a un A.
Ah oui, oui, c'est
le
P. Mais en fait, je pensais une consonne. Oui, j'ai dit. Non, c'est une lettre. Oui, bah, mais c'est une consonne. Le P. J'aurais dit, ce n'est pas non plus le P. Et bien, en fait, il n'y en a aucune. Voilà, je vous ai tous eu. Il y en
a
c'est
un
mais
du coup.
C'est pas drôle.
Le P.
C'est pas drôle. Tu te calmes. C'est-à-dire que, voilà, il faut être fort en français. Non, vraiment, personne ne l'aurait trouvé.
Mais non, tu nous dis là, quelle est la lettre. Et ben,
oui.
Normal, c'est une question piège.
Ça marchait mieux avec des propositions, c'est sûr. Mais comme vous avez répondu très rapidement, question 5. Et quel animal est le baudet poitou? Poitou. Poitou. Le baudet poitou.
Baudet poitou.
1. Ça correspond à un chien. 2. À un âne. 3. À un coq. 4, un cheval.
Un âne.
J'aurais dit un âne aussi.
Un âne, exactement. En fait, les baudets, bah oui, souvent on associe ça à un âne. Et donc celui-là, c'est une race d'âne très ancienne, originaire donc du Poitou, donc dans l'ouest de la France, si vous connaissez pas.
Quand
voilà. Et il d'accord. A une fourrure très...
Dense.
Oui, voilà, ouais, c'est ça. Dense, très, très longue, frisottie. Voilà.
Moi, je connaissais juste peau d'âne.
Peau d'âne.
C'est un petit peu différent, mais pourquoi pas.
Oui, voilà, pourquoi pas.
Chacun ses références.
Question 6, dans quel film Disney la princesse s'appelle-t-elle Méride?
Mérida.
Non, mais...
Rebelle, Mérida.
Rebelle,
Mérida,
oui.
Exactement,
Mérida, Rebelle.
Oui, c'est Mérida.
Quelle est votre relation avec Rebelle?
Bah, c'est un film d'animation que j'aime bien. Ça va, c'est bien.
Ok.
C'est pas le meilleur, mais c'est pas le pire.
C'est assez connu.
Bah oui,
bah,
Rebelle.
Oui, plutôt, mais moi je le regardais
pas. C'est la fille avec les cheveux roux.
Je vois.
Où la mère se transforme en ours. Et après les trois petits frères aussi.
La mère se transforme en ours.
Oui.
C'est quoi cette histoire?
T'as jamais regardé?
Non.
J'ai regardé 10 minutes, je pense.
10 minutes. Et t'es parti aux toilettes, je sais pas.
Je sais plus, c'était il y a longtemps.
Il a arrêté, il en a eu marre.
Oui, c'est ça. Ou alors il se souvient de 10 minutes de film. Question 7. Quelle marque de confiserie a inventé le chocolat blanc?
Mont Blanc.
Bah non.
Non.
Milka peut-être.
Milka. Eh bien non, ce n'est pas Milka.
Lindt.
Lindt, ce n'est pas Lindt.
Moi, je veux bien des propositions.
Oui, mais il continue. Villard, ce n'est toujours pas Villard. Je vous
Kinder.
Donne une petite. Tu te calmes. Des
Kinder.
Propositions. A, il y a Ferrero. B, maïs. C, Nestlé. D, Lindt.
C'est Ferrero.
Ça doit être Nestlé.
Ah, sachant que Lindt, on a dit que c'était pas ça.
Ouais, c'est Nestlé.
Nestlé.
Et
Nestlé,
c'est Nestlé, exactement. Bah, de toute façon, c'est une marque de lait. Voilà, pour l'histoire, en 1930, ça a été produit pour la première fois. En fait, il restait un fond de cacao, du surplus. Voilà. Et il a été mis dans une tablette. En fait, ça a créé le premier chocolat blanc par erreur.
Tu veux dire de la graisse de cacao qui restait?
Sûrement. Oui, oui, c'est ça, la graisse de cacao.
Parce que le cacao, c'est avec quoi on fait le chocolat de base, quoi.
Oui, mais après, en fait, oui, c'est ça, c'est le fait que ce soit mélangé avec du lait qui fait la couleur blanche. Et du coup, il a été popularisé dans les tablettes Galak. Je ne sais pas si vous connaissez la marque.
Oui.
Ça me dit un truc vite fait.
En attendant, ça me donne faim.
C'est vrai. C'est sous cette chaleur étouffante. C'est vrai que ça donne très très faim là. Je regarde. Non, c'est bon, il n'y a plus de questions sur la bouffe, sur les animaux. Tout ira bien.
Nickel.
Ouf.
Question 8. Dans quel club américain Tony Parker a-t-il joué la majorité de sa carrière de basketteur? Si vous ne savez pas, je donne des propositions parce que ce n'est pas vraiment populaire en France. 1. Il y a les Bulls de Chicago. En vrai, c'est assez connu. B. Les Spurs de San Antonio. C. Nuggets de Denver. Et D. Les Lakers de Los Angeles.
Les Lakers.
J'aurais dit les Lakers aussi, ouais.
Moi aussi.
Et ben moi, je sais pas.
Eh bien, il s'agit des Spurs de Saint-Antonio, c'est-à-dire que personne connaît. Voilà, c'est un peu ceux dont on s'attendait pas, parce que c'est pas les plus connus, mais à l'époque, un peu plus. C'est pour ça que ça nous parle moins.
Bah moi, je regarde pas le sport, donc.
Eh bah bravo.
Je regarde que la Formule 1 ou les courses automobiles.
Ah, bah c'est déjà bien, c'est déjà bien.
Bah on est sur RCN dans l'âge bête. On est ensemble jusqu'à 14h30 et tout de suite on écoute Suddenly de IOI.
Mon, 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 힘이 한 길.
bête sur RCN.
On est dans l'âge bête sur RCN et tout de suite on écoute Radou.
Voilà, donc je voulais d'abord commencer par une petite question. Est-ce que vous aimez les cadeaux?
Ah oui.
Oui.
Bien sûr. Et bah ça tombe bien. Parce qu'on vit une époque formidable. Regardez votre smartphone, vous pouvez envoyer des messages à l'autre bout de la planète, regarder des vidéos de petits chats rigolos pendant des heures, utiliser un GPS ultra précis ou naviguer sur des moteurs de recherche qui connaissent tout sur vous.
Oui.
Surtout, plutôt. Mais ça marchait dans les deux cas. Et le point commun entre toutes ces applications magiques, ça ne vous coûte pas un seul centime. Rien. Zéro. C'est beau, c'est l'altruisme du web, on a l'impression que c'est Noël tous les jours. Alors ce matin, j'ai envie de poser une question un peu rabat-joie. Depuis quand les milliardaires de la Silicon Valley sont devenus des enfants de cœur qui bossent bénévolement?
Depuis jamais.
Spoiler alerte, bah oui, jamais.
Oh non, d'où vient cet argent alors?
Dans le monde de la tech, la gratuité est une magnifique illusion. Car si vous ne sortez pas votre carte bleue et que le paiement se fait autrement... Mais
là, bah non, c'est ça comme ça.
Rien à voir, à vrai dire. Oui, pourquoi pas. Enfin, ça en fait partie, mais c'est pas ça exactement. Oh,
t'as essayé.
Bon, je vais venir vous illustrer. Déjà, le premier moyen de paiement sur Internet, c'est votre temps. Ou plus précisément, ce que les sociologues appellent l'économie de l'attention.
Oh.
Pensez-y deux secondes. Pourquoi est-ce que les réseaux sociaux ont inventé le défilement infini? Vous avez ce mouvement de pouce qu'il y a de la page, ne s'arrête jamais. Pourquoi y a-t-il ces petites bulles rouges qui bien stressantes sur nos icônes?
Bah pour, bah, pour en fait clique. Pour enlever la sensation de manque que tu peux pas te projeter. Enfin tu vois c'est toujours
comme ça
se termine pas tu le sais en fait.
Parce que c'est.
Oui voilà c'est vraiment juste
tu sais qu'il
l'attention,
sera toujours là tu
vouloir cliquer.
Ouais ouais.
Voilà. Tout simplement parce que ces applications en fait sont conçues comme des machines à sous de casino. Elles piratent notre jauge de dopamine. Plus vous restez connecté, plus vous scrollez et plus la plateforme peut afficher de publicité sur votre écran.
Ah bon ?
Eh oui. Chaque seconde où vos yeux sont rivés sur l'affichage, c'est un espace publicitaire vendu à prix d'or. Votre temps de cerveau disponible, c'est leur premier jackpot. En gros, vous ne payez pas pour utiliser le service, vous êtes payé en distraction pour regarder les pubs.
D'accord.
Les pubs qu'il y a partout, mais partout, mais partout.
Voilà, genre même quand
c'est
tu scrolles, tu fais trois shorts et c'est bon, t'as une pub.
Mais alors, tu scrolles, tu joues à un jeu tout,
scroll,
partout.
Partout, bah oui.
Ou alors t'arrives sur une page internet, c'est il y a tout qui t'arrive à la gueule, t'arrives même pas à
et
cliquer.
Les
ouais, 3000 pop-up dans la tronche. Bon bah voilà, c'est ça le truc. Mais le vrai trésor de guerre des gens du net, ce ne sont pas juste vos yeux, ce sont vos données. Tout ce que vous faites en ligne laisse une trace. Vos likes, vos partages, le temps exact que vous passez à regarder la photo de votre ex ou vos recherches Google un peu bizarres à 3h du matin. Tout est aspiré, trié et analysé. On a tous déjà vécu ce moment un petit peu flippant, non? Vous parlez à voix haute avec un ami d'une envie soudaine d'acheter des croquettes pour votre chat ou partir en week-end à Amsterdam, au hasard. Vous ouvrez votre téléphone 5 minutes plus tard et paf, une publicité de croquettes premium ou un vol pas cher vers les Pays-Bas.
Bizarre.
Tiens, tiens, tiens. Mais rassurez-vous, votre téléphone ne lit pas encore dans vos pensées. C'est juste que les algorithmes ont créé un profil tellement précis qu'ils vous connaissent en fait mieux que votre propre mère. Ils savent ce que vous aimez, ce qui vous fait peur, ce qui vous fait réagir. Et ce profil numérique, il est impacté en fait et revendu à des régies publicitaires. Vous pensez utiliser un service gratuit, en réalité, vous échangez des morceaux de votre vie privée contre le droit d'utiliser un filtre de chien sur vos selfies.
Oui, après on peut voir les choses différemment. Si tu te dis « ouais, mais les publicités, justement, ça me permet de, tu vois, d'avoir ce qu'il me faut disponible. » Enfin, tu vois, si tu vois les choses comme ça, ça dépend.
Ouais, mais est-ce rentable de donner ta vie privée pour...
Ah, je sais pas que...
Là est la question.
Mais donc, est-ce que oralement, ils peuvent... Non. Enfin, je veux dire, tu vois, tu dis « ouais, tu parles à quelqu'un, etc., de croquettes, etc. » Et là, sur ton tel, t'as une pub de croquettes.
Ils écoutent pas la voix. Il y,
oui,
en a,
je trouvais ça bizarre.
Y a déjà des hackers qui ont fait des tests. Non, ils captent pas les données audio.
D'accord.
Mais ils ont mais en fait, avec tout ce que tu recherches sur Internet, ils ont un profil tellement bien fait de toi qu'ils arrivent à simuler toi-même à l'avance.
Ah d'accord, oui.
Ils arrivent à te simuler, à penser à peu près ce que toi tu voudrais faire.
Ils te connaissent mieux que toi, quoi.
Voilà.
Ils savent comment tu vas mourir.
En fait, ils créent vraiment un clone digital de toi.
Ok, d'accord.
Donc ça, le truc. Et en fait, le pire dans toute cette histoire, c'est qu'on est tous déjà parfaits complices. On a tous déjà cliqué sur le bouton « Tout accepter » ou « J'accepte les conditions générales d'utilisation » sans lire une seule ligne. Logique, si on devait lire les contrats de toutes nos applis, cela nous prendrait plusieurs semaines par an. Si ça se trouve au paragraphe 42 des conditions d'utilisation de votre navigateur, vous avez légalement promis de donner votre premier enfant ou de léguer vos fruits de milieu aux gens du net. Et vous ne le savez même pas.
Ah, ok.
Alors, la question, faut-il tout couper et partir vivre au fond des bois sans Wi-Fi ? Pas forcément. Mais la prochaine fois qu'une application géniale vous offre un service 100% gratuit, bah gardez l'œil ouvert, souriez, profitez-en, mais n'oubliez jamais la règle d'or du web. Si c'est gratuit, c'est vous le produit.
Ça, on en parle en EMC.
Ah bon ?
En EMC, oui, en SES aussi, il me semble, l'année dernière. Il me semble qu'on en avait parlé.
Ah, ça me dit rien du tout.
Mais on en
tout.
Parle en cours, ouais, de tout ça.
Oui, mais moi, je crois que j'avais dû voir un petit peu en SES à l'époque.
Ouais, ça remonte.
Ça remonte, oui. Voilà.
Donc, mais oui, on en parle un petit peu au lycée, au collège aussi, je crois, on en parle.
Je m'en souviens plus.
En EMC ou en géographie.
Peut-être en techno aussi.
Oui, ça sert vraiment
à techno au collège, oui.
Donc, on était sur l'âge bête dans l'âge bête sur RCN. Et donc, merci de nous avoir écoutés. On a enregistré cette émission depuis le lycée Marquette. Salut tout le monde.
Salut.
Salut.
Salut.